Mise au courant des événements de la nuit, la Shazam ne parut guère surprise. « Je t'avais prévenu, » se contenta-t-elle de marmonner les yeux dans le vague. « Au moins maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Tu as eu de la chance dans ton malheur, puisque ça s'est passé pendant que tu étais inconsciente. L'important, c'est que ça ne se reproduise jamais, car il va recommencer, n'en doute pas. Pour les hommes, le plus dur, c'est de se décider à passer à l'acte. Après, ils n'hésitent plus.
Il prendra vite l'habitude de te rendre visite dès que ta mère aura le dos tourné. D'ailleurs, la plupart du temps, les mères préfèrent ne rien savoir de ces choses-là. Elles ont peur qu'on en parle en ville.
Tu ne dois compter que sur toi-même. Ce qui s'est produit prouve qu'une défense passive ne suffit plus vis-à-vis d'un tel ennemi. Il est trop fort pour toi, tu dois passer à l'attaque. Lui déclarer la guerre. C'est le seul moyen de t'en sortir, sinon tu deviendras son jouet. Et qui sait, peut-être y prendras-tu plaisir. Fran tressaillit. À cette seule idée, elle avait envie de courir se jeter dans le puits. La chaînée dardit sur elle son œil de lézard. « Alors, grogna-t-elle, que décides-tu ? C'est à toi de choisir. Quant à moi, je me fiche pas mal de ce qui peut t'arriver. » « D'accord, balbutia Fran. Apprenez-moi à le combattre. » « Les épreuves seront diantrement plus difficiles, tu sais, » siffla la vieille femme. « Les accepteras-tu ? » « Oui, » fit l'adolescente. Maintenant, elle était prête à tout pour se protéger. À l'occasion de certains procès récents, son père ne lui avait-il pas répété que la légitime défense passait souvent par l'attaque préventive ? « Il en est toujours ainsi, » martelait-il. « On ne pourra jamais rien y changer. »« Et il n'y a rien à y redire. » Pour la première épreuve de contre-offensive, la vieille femme lui donna rendez-vous près de la pièce d'eau des sources. « À midi pile, » précisa-t-elle, avec un curieux sourire en coin. « Sois exact, sinon la conjonction astrale ne te sera plus favorable. » À l'heure dite, Fran quitta la maison paternelle en refermant la grille avec soin. Elle avait conscience d'être en train d'enjamber une ligne frontière décisive. Désormais, il n'était plus question de retour en arrière. D'ici une demi-heure, elle aurait commis son premier acte de guerre. Un silence étouffant pesait sur la campagne. Elle eut presque envie de hurler pour remettre les choses en marche. « On dirait une pendule qui vient de s'arrêter, » songea-t-elle en poussant son vélo le long du chemin. Arrivée au premier tournant, elle se retourna. Face à face, la maison de son père et la bicoque biscornue de la Shazam semblaient s'évaluer mutuellement pour se préparer au combat final. Le vélo, emporté par la pente, faillit lui échapper.
« on y va !» murmura l'adolescente.
Elle se remit en selle et poursuivit son chemin. Arrivée à la bifurcation qui menait aux sources, elle n'avait toujours rencontré personne. C'était à croire que la Shazam avait plongé tous les habitants du village dans un sommeil magique. Deux semaines auparavant, elle aurait ricané d'une telle idée. Aujourd'hui, elle était toute prête à admettre l'impossible. Après avoir traversé le petit bois, elle distingua enfin l'étendue d'eau. Son cœur battit plus vite, elle était prête. Dans peu de temps, elle serait invincible. Plus jamais elle ne connaîtrait la peur. Quand elle embrassa le lieu d'un coup d'œil fiévreux, elle fut déçue. Quoi ? C'était là, autour de cette mare d'une atroce banalité, qu'aurait lieu la cérémonie ? Elle avait dû se tromper d'endroit. Cet espace n'avait rien de magique. Des emballages de friandises traînaient, ainsi que des boîtes de soda. Une chaussure en plastique à la bride cassée flottait près de la berge, à la dérive. Franny se sentit soudain mal à l'aise. Elle réalisa que pour rien au monde, elle n'aurait accepté de camper ne serait-ce qu'une nuit dans cette clairière. « En cherchant bien, se dit-elle, tu trouveras sûrement des préservatifs usagés dans l'herbe. » La chaussure, surtout, attirait son regard. C'était le pied gauche. Où était passé le pied droit ? Une image saugrenue l'assaillit, celle d'un unijambiste en train de se noyer. À qui était cette sandale? Il ne s'agissait pas d'une pointure d'enfant. Elle éprouva le besoin de s'approcher de la rive pour examiner le fond de la mare. Elle avait les mains moites et avançait à petits pas. « Et s'il y avait quelqu'un au fond, pensa-t-elle, un cadavre flottant entre deux eaux ?» Elle se prit à imaginer toutes sortes de scénarios. Une cérémonie d'initiation tournant mal, les démons se rebellant contre le candidat amené par la mère Shazam et le mettant en pièces. C'est ce qui allait peut-être lui arriver dans 3 minutes. Qui sait? Les forces obscures la déchireraient en 10 morceaux et l'on ne retrouverait que ses tennis flottant dans la mare. Des tennis que son sang aurait teint en rouge. La silhouette de la chénier s'encadra enfin dans le soleil, ramenant Franny à la réalité. La paysanne s'approcha de l'adolescente et sans même la saluer attaqua. « Tu es prête ? Bon, faisons vite. Les astres ne nous seront pas longtemps favorables. Tu dois faire le tour de l'étang, mais attention, tu devras toujours garder les pieds dans la vase. Ce n'est pas dangereux. D'autres l'ont fait avant toi, il n'y a pas de sable mouvant. » Franny s'apprêtait déjà à entamer le périple quand la Shazam la retint. « Attends, ce n'est pas si simple. Tu dois te déshabiller. » L'adolescente ôta chaussures et chaussettes de bonne grâce. « Tu dois te mettre entièrement nue, » précisa la vieille. Franny connut une seconde d'affolement, mais la matrone la rassura. « Je ne vais pas rester, tu feras cela toute seule. Une telle cérémonie ne doit pas avoir de témoins. Tu ne risques pas grand-chose, à 7 heures les gens mangent. La campagne est vide. » Franny évalua du regard la longueur du parcours. Elle estima que l'épreuve ne durerait pas plus de 10 minutes. Une fois que tu auras commencé à marcher, poursuivit la vieille femme, tu ne devras plus te retourner. Quand tu auras parcouru un demi-cercle, tu reviendras sur tes pas. Tu apercevras alors une espèce d'épouvantail planté à côté de tes vêtements. Avant de te rhabiller, j'insiste, avant, tu devras t'allonger par terre, prendre le mannequin dans tes bras et le réchauffer. Après, et seulement à ce moment-là, tu pourras reprendre tes habits. Pas avant, n'oublie pas, car pour te servir, les esprits ont besoin de connaître ton corps, ton odeur. Ils fonctionnent comme des chiens, ne se fiant qu'à leur odorat. Il leur faut pouvoir t'identifier dans les ténèbres, sinon ils te confondraient avec tes ennemis et te mettraient en pièces. Si tu veux être obéi, tu dois t'en donner les moyens. La vieille parut réfléchir, puis ajouta « Un dernier conseil, n'essaie pas de tricher. Les forces noires t'étrangleraient avec tes propres habits. Maintenant va, il est temps. » La mère chénier disparut dans le sous-bois, silhouette courtaude à la démarche lourde. Elle semblait pressée de s'éloigner, comme si elle regrettait déjà d'avoir manigancé ce rendez-vous. « Elle n'a pas confiance en moi, » songea Fran avec un petit pincement à l'estomac. « Je lui montrerai qu'elle se trompe. » Une fois nue, elle entra dans l'eau glacée. Ses pieds s'enfoncèrent dans la vase, mais jamais plus haut que la cheville. La vieille femme avait raison. Sous la boue, le sol était stable. Parfois, des épines lui griffaient cuisses et mollets. Une pierre la fit trébucher et s'étaler de tout son long. En se redressant, Franny crut percevoir des ricanements ténus qui fusaient en trilles. S'agissait-il des esprits de la forêt? Dans ce cas, ils n'avaient guère plus de compassion que les humains. Elle fut sur le point de renoncer. Arrivée à mi-parcours, son regard changea tout naturellement de direction et revint au point de départ. C'est alors qu'elle aperçut l'épouvantail planté à côté du petit tas formé par ses vêtements. D'où elle se tenait, elle le distinguait encore mal, mais elle voyait flotter les hardes dont on l'avait affublée. Bien qu'elle sût qu'il s'agissait d'un objet inanimé, elle se sentit mal à l'aise, car la sinistre marionnette semblait la suivre du regard. Le soleil perça les nuages et vint se refléter à la surface de l'eau. Franny pataugeait au milieu des éclaboussures. Chaque pas la rapprochait de la fin de l'épreuve, mais aussi du moment où elle devrait étreindre l'étrange squelette de bois vermoulu. Ralentir l'allure ne servirait qu'à indisposer les forces avec lesquelles elle voulait faire alliance. À mesure qu'elle progressait, l'épouvantail perdait son aspect humain. La paille grossièrement ficelée sortait des manches et du col d'un vieux costume élimé.
Le pantalon se gonflait dans les courants d'air. Alors que l'adolescente commençait à se sentir rassurée, sa gorge se serra. La braguette de l'épouvantail était ouverte. Un épi de maïs en jaillissait, telle une caricature de pénis. Fran continua d'avancer par pur automatisme, mais son cerveau crépitait comme une radio dévorée de parasites. « Ce n'est rien, » balbutia-t-elle à mi-voix. « Toutes les initiations comportent un élément désagréable. C'est la règle. » Subitement, les bribes d'un cours de sociologie émergèrent de l'oubli. Dans certains États d'Amérique, où la culture du maïs constituait le seul revenu des paysans, l'épi symbolisait la fertilité, voire la vitalité sexuelle, pour ne pas dire la virilité. Bien des fêtes et des danses brodaient autour de ce thème, amalgamant l'engrossement des femmes et le cycle du mûrissement. Franny se souvenait des gloussements gênés ou égrillards des élèves. Le professeur, vexé, avait écourté son exposé en donnant des titres de romans évoquant ses transpositions folkloriques. Maintenant, elle se tenait devant l'épouvantail. Elle leva une main et la garda immobile à 10 centimètres des vieux vêtements, tandis que de nouveaux ricanements ténus suintaient des fourrés. Elle décida de ne pas y prêter attention. Les lutins pouvaient bien essayer de lui faire peur, elle ne céderait pas à l'intimidation. Elle réussit à saisir le mannequin sous les aisselles et à s'allonger dans la vase. Elle sentit l'épi lui meurtrir le pubis et serra les dents. Elle resta ainsi réchauffant l'étrange pantin avec l'impression d'être couchée sous un squelette. Quand elle se rhabilla, elle décida qu'il ne s'agissait pas, en définitive, d'une épreuve difficile. Elle en avait triomphé aisément. Elle était désormais prête pour d'autres mystères. Dans les jours qui suivirent, Franny s'attendait à être convoquée pour participer à d'autres rites d'allégeance. Il n'en fut rien, cela la troubla. La Shazam semblait s'être volatilisée. Chaque fois que Fran alla toquer à sa porte, elle ne répondit pas. Un après-midi, la jeune fille s'embusqua au détour du chemin creux, attendant de voir se dessiner la silhouette courtaude de la sorcière dans les vibrations de l'air chaud. Après 2 heures d'affût, elle réussit enfin à l'aborder, mais la vieille demeura distante, se contentant d'un salut marmonné. Perplexe, l'adolescente chercha quelle faute elle avait pu commettre pour se retrouver ainsi frappée de disgrâce. En désespoir de cause, elle alla rôder autour de la bicoque biscornue. La mère Chenier se livrait-elle à des pratiques magiques ne supportant aucun témoin? Un notable du village avait peut-être recours, en ce moment même, à ses services. Franny ne tarda pas à se lasser de ce rôle d'espionne. Après une dernière tentative, elle quitta le poste d'observation en songeant amèrement que, depuis 3 jours, les forces de la nuit ne lui avaient envoyé aucun signe. Sans qu'elle en eût conscience, ses pas la portèrent vers la pièce d'eau témoin de son initiation. Troublée, l'adolescente se remémora les différentes étapes de la cérémonie. Savoir qu'elle en avait triomphé la faisait se sentir plus forte. N'avait-elle pas réussi à réchauffer l'affreux épouvantail sans trop de répugnance? Pourquoi alors la chaînée la tenait-elle en pénitence? Elle longea les berges de l'étang, puis s'assit sur un tronc et s'abîma dans la contemplation des clapotis. Une branche tapissée de lichens dérivait. Une sirène d'ambulance se fit entendre, au loin, mais elle n'y prit pas garde, bien que ce son, fréquent en ville, fût rarissime à la campagne. Fran demeura ainsi un moment coupé du monde, indifférente au bruit de la nature. Un oiseau, traversant son champ de vision, la tira enfin de l'état hypnotique dans lequel elle avait sombré. La lumière du jour baissait. Déjà, la berge opposée disparaissait sous l'ombre des arbres. Sans s'attarder davantage, Fran prit le chemin de la maison. Une mauvaise surprise l'attendait là-bas. Les abords de la villa se révélèrent encombrés de badauds et de voitures dont les gyrophares tournaient en crachant des éclats de lumière écarlate. Il y avait le véhicule du shérif ainsi qu'une ambulance. Franny réalisa qu'une foule de gens avait envahi son jardin. Un pompier vêtu d'un accoutrement bizarre apparut sur la chaussée. Reconnaissant Fran, il se détourna pour appeler quelqu'un. L'adolescente s'immobilisa. L'homme était engoncé dans une combinaison à cagoule. Il avait les mains gantées. Elle trouva qu'ainsi déguisé, il ressemblait à ces sauveteurs qui, dans les films, déambulent dans les cratères d'explosions atomiques. Deux silhouettes se détachèrent du groupe pour venir à sa rencontre. Elle identifia le shérif. L'autre était Eddie Colson, un vieux bonhomme à qui son père rendait parfois visite depuis leur arrivée à Purgatory. « C'est sa fille, » dit Colson en guise de présentation. Il parlait la bouche de travers, un ton trop bas, comme un souffleur de théâtre. Un mauvais souffleur, dont la voix dérape sans cesse, passant du grave à l'aigu. « Mademoiselle, » récita le représentant de l'ordre, « il y a eu un accident. Il s'agit de votre père. Une ambulance vient de l'emporter. Nous ne savions pas où vous étiez. Il faudrait prévenir votre mère. » C'est grave, très grave. Déconnectée de la réalité, Franny récita le numéro de téléphone du magasin. Ce fut comme si elle cessait aussitôt d'exister. Plus personne ne s'occupa d'elle et ses questions tombèrent dans le vide sans obtenir de réponse. La maison avait été envahie par une dizaine d'inconnus. Elle se sentait en trop, comme si sa présence dérangeait l'ordonnance d'une mystérieuse cérémonie. Incapable d'aller plus loin, elle se campa dans la salle à manger. « Nous attendons l'arrivée de votre mère, » lui dit le shérif, daignant brusquement se rappeler sa présence. « Nous venons de la prévenir. » Fran s'approcha de la fenêtre donnant sur la route. De l'autre côté se dressait la bicoque de la sorcière. La jeune fille éprouva le besoin incontrôlable d'apercevoir la mère chaînée, ne fût-ce qu'une seconde. Les volets ayant été repoussés par les adjoints du shérif, Franny s'arrangea pour jeter un coup d'œil à l'extérieur sans être vue. Le jardin de la vieille était vide, même le chat avait fui, sans doute épouvanté par les sirènes. Franny allait s'asseoir quand une exclamation en provenance du dehors lui rappela la présence des badauds. L'oreille tendue, elle se mit à assembler des bribes de conversation saisies au vol. « C'est ce qu'on appelle rentrer chez soi pour mourir, » marmonnait une vieille au débit chemintant. Tout de même, revenir au bout de 25 ans pour claquer d'une manière aussi bête, s'exclama une deuxième voix. Franny ferma les yeux. Sa fille n'était pas là ? Non, les gamines de la ville, ça ne tient pas en place. Pareil qu'elle rôde sur les routes à aguicher les garçons. Elle tourne autour de ce pauvre Peter Punky. Elle va finir par donner à ce gosse des idées qui ne sont pas de son âge. Aujourd'hui, les filles de la ville, c'est avortement et compagnie. À 12 ans, on ne les tient plus. C'est curieux, non, que la femme de Monroe ne soit pas là. Qu'est-ce qu'il fichait ici, tout seul avec sa gamine? C'est pas sain. Il divorçait peut-être. Dans les villes, c'est une manie. Comme il a dû souffrir, intervint une voix altérée. « Vous vous rendez compte qu'elles sont rentrées dans ses vêtements ?»«
Quelle idée aussi !»«
Comme si avec tous les sous qu'il avait, il ne pouvait pas payer quelqu'un du coin pour le débarrasser de cette saloperie. »«
Va savoir s'il l'avait seulement vu.
Ce serait bien digne d'un citadin. »
Dans le brouhaha des questions-réponses, un homme se mit à parler plus fort que les autres. Le silence se fit. Franny reconnut le timbre d'Eddie Colson. Je l'ai déjà raconté au shérif, expliqua-t-il. Je passais pour boire une bière avec lui.
Comme personne ne répondait, je suis entrée. J'ai cru qu'il y aurait quelqu'un dans le jardin et je me suis avancée en demandant « T'es là? C'est toi, Georges ?» C'est alors que je l'ai vu surgir. Il y avait comme un nuage noir qui l'enveloppait. Sur le coup, j'ai cru que c'était de la fumée. Déjà, j'avais dans l'idée de courir chercher la couverture du chien dans ma voiture pour étouffer le feu, quand je me suis aperçue que le nuage, c'était un essaim de guêpes en folie. C'était affreux. Les bestioles le recouvraient comme une fourrure, et j'ai tout de suite vu qu'il en avait dans son pantalon. En bas de chaque jambe, ça lui gainait les chevilles. Il marchait encore, mais tout à coup il est tombé. Ça grouillait entre ses jambes, ça grouillait. Je ne pouvais rien pour lui, alors j'ai donné l'alarme. L'homme s'interrompit. Il reprenait haleine. L'avidité figeait le visage des commères. Une fois les insectes tués, il ne devait pas être beau à voir, reprit Colson. Un pompier disait à l'un des gars de l'ambulance qu'il les avait comme des melons. J'aurais pas voulu être à sa place. Colson se tut, chassant de la main des insectes invisibles. Gêné d'avoir tant parlé, il fit comprendre qu'il ne dirait plus rien. Les femmes, déçues, s'écartèrent avant de se regrouper plus loin pour reprendre leur bourdonnement. Colson tituba, hagard. À plusieurs reprises, il regarda en direction du jardin de la mère Shazam.